Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleuriot.
Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous retrouver sur Sud Radio dans Parlons Immo, l'émission de votre logement, l'émission dans laquelle on parle immobilier, on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions IMO, I2MO comme immobilier, suivi de votre question au 7 20 18. On est avec vous, 12h, 13h, on est ensemble et évidemment, je suis avec toute l'équipe. Alors, Sylvain Lévy-Valency n'est pas là, on l'embrasse, il se repose en Normandie. En revanche, Grégoire Daricot est bien là. Bonjour Grégoire.
Bonjour Bérénice.
Il y en a qui travaillent hein, quand même.
Oui, tout à fait.
C'est long week-end.
On le salue, Sylvain.
Bah oui. Bonjour Laurent Permas.
Bonjour.
On va allumer votre micro, ce sera mieux.
Ah voilà, bonjour Bérénice.
Vous êtes notre expert rénovation énergétique. Un programme riche aujourd'hui, notre invité c'est Loïc Quentin. Bonjour Loïc.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. On va voir avec vous que le marché immobilier, c'est un petit peu inquiétant. Alors, on ne va pas être alarmiste, mais c'est vrai qu'il était en train de reprendre quelques couleurs. Mais les nuages s'amoncellent à nouveau avec la guerre au Moyen-Orient. On va voir comment ça impacte le marché immobilier, comment ça peut empêcher certains ménages de devenir propriétaires. N'hésitez pas à nous écrire. On va parler des crédits immobiliers. On a reçu un SMS justement au 72018. Une personne qui a envoyé IMO et qui aimerait avoir plus de détails sur les taux des crédits. On va en parler. On va parler aussi de rénovation énergétique, Grégoire.
Mais oui, les Bérénice, avec Laurent Permas, on va revenir sur les idées reçues concernant la rénovation énergétique dans la lignée de notre vrai du faux de la semaine dernière. Et puis après, dans notre chronique Maison Saine, je vous propose de revenir sur la détection des fuites d'eau dans nos logements. Toujours un sujet épineux. Et puis enfin, on ira direction Villeneuve-d'Ornon et les États-Unis d'Amérique pour le tour des biens coup de cœur de la semaine.
Et oui, parce que chaque semaine, on vous fait une petite sélection de biens immobiliers. Voilà, si jamais vous cherchez à devenir propriétaire. Mais tout de suite, ce sont les infos à retenir.
Sud Radio, Parlons Immo, Bérénice de Villefleuriot.
Alors, quel programme aujourd'hui, Grégoire?
Alors, combien coûte un bien immobilier avec vue sur mer? Et si on changeait complètement la manière de calculer les crédits immobiliers et puis week-end prolongé et projet de résidence secondaire? Voici ce que je vous propose pour cette semaine.
Alors, on commence avec une étude qui va faire rêver. Oula, je casse tout dans le studio, tout va bien. Je suis pas réveillée. Il est midi, je suis pas réveillée. C'est normal, c'est un week-end de 3 jours. Donc, une étude qui va faire rêver ou déprimer certains auditeurs combien coûte vraiment une vue sur mer, Grégoire?
Eh bien, Bérénice, la réponse est assez spectaculaire. Selon une étude du portail d'annonce Green Acre, avoir une vue sur la mer n'est plus un simple petit plus immobilier, c'est devenu un marché à part entière. Les chiffres sont impressionnants. Un bien avec vue sur mer, il coûte en moyenne 650 000 euros contre 264 000 euros hors littoral. Autrement dit, la vue sur mer, elle fait grimper le budget de 146%.
Ah oui.
Et c'est pas tout, avec une vue mer, les acheteurs en fait acceptent aussi de perdre énormément de surface. En moyenne, un bien hors littoral fait 140 mètres carrés contre seulement 90 mètres carrés avec vue mer.
Ouais. On perd 50 mètres carrés?
Exactement.
Non, mais attends, c'est n'importe quoi, ça, ils en profitent quand même.
Non seulement on paye beaucoup plus, mais c'est pour vivre dans plus petit. Et ce qui est fascinant, c'est que même sur le littoral, la simple présence de la vue mer change tout. Un appartement avec vue mer coûte en moyenne 78% de plus qu'un bien situé dans la même ville, mais sans la vue directe sur l'eau. Et évidemment, c'est la Méditerranée qui reste la zone la plus cher, alors que sur l'Atlantique, l'écart est beaucoup plus faible. Et oui, aujourd'hui, les acheteurs n'achètent plus seulement des mètres carrés, ils achètent un panorama, ma chère Bernice.
Moi, à ce prix-là, j'achète vue terre. Hein. Bon, deuxième info, si on changeait complètement la manière de calculer les crédits immobiliers. C'est vrai que c'est intéressant, ça.
Aujourd'hui, vous le savez, pour obtenir un prêt, une règle domine, vous ne devez pas dépasser 35% d'endettement. Mais une proposition de loi veut changer cela. Elle vient du député de la deuxième circonscription du plus beau département de France, j'ai nommé les Landes, donc Lionel Causse, que l'on salue. L'idée, c'est de
Lionel Causse qui est député des Landes.
Oui, tout à fait, de la deuxième circonscription des Landes.
Ouais.
L'idée, c'est de remplacer cette règle par un autre critère, celui du reste à vivre. Autrement dit, au lieu de regarder uniquement le pourcentage de revenus consacrés au crédit, les banques regarderaient surtout ce qu'il vous reste chaque mois après avoir payé toutes vos charges. L'idée, elle n'est pas absurde parce qu'aujourd'hui, un ménage qui gagne très bien sa vie peut être bloqué à 35%, alors qu'il lui reste largement de quoi vivre confortablement. À l'inverse, un ménage plus modeste peut être sous les 35%, mais avoir très peu d'argent disponible une fois toutes ses dépenses payées. Les défenseurs du texte estiment donc que le système actuel est parfois trop rigide et ne reflète pas la réalité des situations. Attention, les banques, elles restent prudentes. Le taux d'endettement est aujourd'hui simple, clair et facile à contrôler. Mais bon, peut-être que le crédit immobilier pourrait devenir plus personnalisé dans les prochaines années, avec des dossiers étudiés davantage au cas par cas. Laurent, peut-être que vous nous direz ce que vous en pensez.
Absolument.
Et on termine justement avec une info qui sent bon les week-ends prolongés et les projets de résidences secondaires.
Bah oui, les réservations explosent pour les ponts du mois de mai 2026, Bérénice, et ça se voit déjà sur le marché immobilier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Français redécouvrent les séjours courts, les maisons de campagne et les destinations accessibles en voiture. Résultat, certaines zones touristiques enregistrent une forte hausse de fréquentation, notamment le littoral, les petites villes et puis les destinations de nature. Derrière cette tendance touristique, il y a aussi un phénomène immobilier. De plus en plus de Français réfléchissent à acheter un pied-à-terre ou une résidence secondaire qu'ils pourraient utiliser plusieurs fois dans l'année. On voit notamment revenir l'idée du petit refuge à 2 ou 3 heures de route de chez soi. Un phénomène qui profite aux villes moyennes, aux zones côtières, mais aussi aux campagnes bien connectées. Intéressant de voir en tout cas nos habitudes de voyage évoluer et influencer directement le marché de l'immobilier.
Et d'ailleurs, si vous êtes en week-end prolongé, profitez, on pense bien à vous. Merci Grégoire, tout de suite c'est le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Et oui, le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. On vous en parle chaque samedi sur Sud Radio dans Parlons Immo avec Grégoire Daricot et Laurent Permas, directeur général de Sofinco Éco-Transition.
Alors la semaine dernière, on vous avait fait un vrai du faux sur la rénovation énergétique. Cette semaine, on va plus loin, on s'attaque aux idées reçues, moins visibles mais souvent plus trompeuses. Laurent Permas, bonjour, vous êtes avec nous pour en parler.
Bonjour Grégoire.
Alors Laurent, on en avait un peu parlé déjà. Beaucoup pensent qu'il faut un gros budget pour rénover, ça paraît logique, mais...
Mais c'est une légende urbaine en fait, c'est une erreur fréquente. C'est justement beaucoup de gens en fait pensent qu'il faut tout faire d'un seul coup. Hein, la rénovation globale, ça fait peur, ils font rien. Ils n'ont pas envie non plus de se projeter avec 2-3 semaines, voire plus de travaux et de poussière. Donc on peut avancer en fait par étapes intelligentes. Hein, on commence par un audit énergétique, ça c'est vraiment obligatoire, faut le faire pour connaître justement son plan de bataille. On commence par quoi ? Ça donne les priorités. Et ça, en plus, ça donne les coûts. S'occuper de l'isolation des combles, la chaleur monte. Et puis, on améliorer la régulation de la température dans le logement, je pense au thermostat, et traiter les murs. Parce que là aussi, c'est un sujet d'isolation. Donc, l'important, on ne fait pas tout en même temps, mais on commence dans le bon ordre que vous indique l'audit énergétique.
Tous les travaux se valent, Laurent ?
Beaucoup de ménages pensent en fait qu'un chantier en vaut un autre, hein, c'est parce que c'est le voisin. Hein, on isole en fait, les travaux n'ont pas le même impact. Hein, isoler les combles, c'est plutôt très rentable. Changer une porte d'entrée, c'est un impact plutôt limité, si ce n'est la sécurité. C'est un autre sujet. Et puis, sans hiérarchiser, on peut dépenser, en fait, et sans réel gain à la fin.
Laurent, on entend souvent que rénovation égale économie immédiate et garantie.
Alors là, c'est beaucoup plus complexe. Les économies, en fait, elles dépendent de l'état du logement, donc avec l'audit énergétique, du comportement des occupants, parce que, je paye moins cher ma facture, donc j'augmente le thermostat, et puis je suis à 23, 24 degrés, c'est sympa d'être en chemise ou en t-shirt chez soi, mais c'est pas l'objectif. Et puis la qualité des travaux, ça, c'est important. Hein. Après rénovation, certains ménages chauffent davantage parce qu'ils se sentent beaucoup mieux, donc la facture ne baisse pas, et on n'en pas et on parle alors d'effet rebond sur le portefeuille. Ça coûte plus cher.
Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, il est devenu central. Est-ce qu'il suffit à juger un logement ?
Alors, là aussi, on enfonce le clou à nouveau. Oui, mais il ne dit pas tout. Il donne une estimation, mais pas forcément le ressenti réel. Deux logements avec la même étiquette peuvent avoir un confort très différent, en fait. Hein. Des consommations différentes aussi. Et puis, le DPE est un outil, pas une vérité absolue. Celui qui va vous donner la stratégie, c'est l'audit énergétique, qui est beaucoup plus profond.
Exactement, on insiste sur l'audit énergétique. On a un catalogue d'aide assez impressionnant, Laurent, et puis en mouvement constant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, c'est une bonne nouvelle, mais en pratique, en fait, ça peut compliquer les choses, surtout sa sélection. Hein. Plus il y a d'aide, plus il faut comprendre les critères, monter les dossiers, vérifier les cumuls. Résultat, certains ménages renoncent beaucoup, en fait, hein, faute de lisibilité et d'aide.
Laurent, beaucoup de Français pensent qu'il existe une solution universelle en matière de rénovation énergétique. Qu'en dites-vous ?
Eh bien non, il n'en existe pas qu'une. Chaque logement est différent, c'est pour ça qu'il y a les DPE. Maison ancienne, appartement copropriété, zone climatique, usage. Et puis, ce que je disais, en fait, on copie souvent le voisin parce qu'en fait, il en parle lors des dîners et c'est pas du tout la bonne idée.
Exactement. Des idées reçues, mon cher Laurent, qui ne sont pas forcément fausses, en tout cas.
Oui, exactement. Elles contiennent une part de vérité, mais elles simplifient trop la réalité. C'est beau, ça, quand même. C'est une vraie poésie pour le samedi matin. En fait, en rénovation énergétique, les raccourcis, je vais y arriver, je suis comme Bérénice, hein, peuvent coûter très cher. Le samedi matin, on a du mal.
Mais c'est pas le matin, c'est midi, mon cher Laurent.
Oui, samedi midi, effectivement.
Oui, mais moi, c'est le matin.
Allez, merci Laurent Permas. À toutes et à tous, la rénovation énergétique, ce n'est pas une recette toute faite. C'est un projet à construire étape par étape. Audit énergétique, rappelez-vous de ça. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
Merci beaucoup, vous êtes toujours sur Sud Radio. Bon week-end de prolongé, profitez si vous avez 3 jours off. Si vous voulez emprunter de l'argent, tiens, pour devenir propriétaire, eh bien restez avec nous, on en parle dans quelques instants.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, parlons immo, midi 13h, Bérénice de Villefleuriot.
Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes dans Parlons Immo, on parle immobilier, on parle de votre logement chaque samedi de 12h à 13h et on répond à vos questions. Si vous avez des questions sur votre logement, sur le voisinage, comment il faut faire, chaque semaine des experts y répondent. Vous envoyez votre question précédée de Immo, donc vous envoyez I2MO puis votre question par SMS au 72018, on y répond tout de suite.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Et on a reçu une question de Jean. Jean qui habite à côté de Bordeaux et qui nous dit qu'il est inquiet parce qu'il envisageait de devenir propriétaire. Il est locataire actuellement et il a commencé à mettre de côté il y a 2 ans pour acheter donc son logement avec sa femme. Sauf que voilà, il a entendu que les taux des crédits immobiliers remontaient. Et il nous demande s'il faut s'inquiéter, s'il va devoir reporter son projet. Alors pour y répondre, on accueille Ludovic Usieux. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le fondateur de Artemis Courtage. Alors Artemis Courtage, vous faites du courtage en crédit. Donc vous allez démarcher toutes les banques pour les particuliers pour essayer d'obtenir les meilleurs taux. Donc vous êtes au quotidien en contact avec les banques. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les taux des crédits immobiliers en ce mois de mai déjà ? Est-ce que les taux remontent en ce mois de mai 2026 ?
Alors c'est une remontée en pente douce. Hein. En réalité, on a connu un mouvement de hausse depuis l'entrée en guerre au Moyen-Orient, donc début mars, où les barèmes des banques se sont relevés en moyenne, selon les banques et selon les régions, entre 0,15 et 0,30%. Et ça selon tous les profils et tout type de projet. Donc on est effectivement sur une phase plutôt ascendante et des taux qui augmentent, mais qui n'obèrent pas encore la capacité d'emprunt de nos clients et qui ne mettent pas sur le côté de la roue des emprunteurs qui n'auraient plus la capacité d'emprunter et d'accéder à leurs rêves de propriété.
Alors, en moyenne, sur 20 ans, on est à un taux à 3,35, c'est ça hein ? Et sur 25 ans, 3,45, si je ne me trompe pas, selon les grilles.
Oui, c'est effectivement à peu près ça. On observe une hausse depuis l'entrée en conflit de 0,25, 0,30, selon l'établissement bancaire, ce qui représente... 25 euros ou à peu près sur une durée de 20 ans pour un emprunt de 200 000 euros.
Par mois. Donc ça veut dire 25 euros supplémentaires.
Oui, exactement.
Donc ça veut dire que si par exemple je remboursais, 500 euros par mois, bah là ça serait 525.
Oui, sur des mensualités un petit peu plus importantes pour 200 000 euros sur 20 ans. Mais ouais, en réalité, ce que je veux mettre en relief, c'est que ça ne change pas l'intentionnalité ou la capacité d'un couple aujourd'hui à acheter sa maison ou son appartement. On est encore sur cette hausse de taux, on est encore sur une marge de négociation, c'est-à-dire que 0,25, 0,30, c'est ce qu'on peut encore négocier quand on a un bon dossier, quand on a un peu d'apport, quand on a de l'épargne résiduelle. On est encore, cette augmentation, elle est encore de l'ordre d'une négociation. Ouais. On n'est pas du tout,
Ça bloque pas un projet.
Dans la même situation. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans la même situation qu'il y a deux ans, au moment de la guerre en Russie, où les taux étaient passés de 0,85 à 4,5. Là oui. on est passé de 3,20 à 3,45 sur 20 ans. C'est pas dans le bon sens, mais c'est pas. On faut pas crier au loup, faut pas dire qu'on a mal avant d'être blessé. C'est pas le cas aujourd'hui.
D'accord. Vous parlez d'avoir un apport. Est-ce qu'on peut encore emprunter de l'argent pour acheter sans apport, si on n'a pas d'argent de côté? Est-ce que c'est encore possible?
C'est compliqué et c'est plutôt l'exception que le principe. Je vous dirais qu'aujourd'hui, pour mener à bien un projet immobilier, il faut au minimum avoir en apport entre ses mains au moment de la mise en place du projet. Il faut avoir l'ensemble des frais, couvrir l'ensemble des frais, c'est-à-dire environ 10% du coût du projet au total. Si votre appartement ou votre maison coûte 200 000 euros, il faudra disposer de 20 000 ou un peu plus en apport personnel pour couvrir les frais de notaire, les éventuels frais d'agence immobilière, les frais de dossier bancaire, les frais de courtage, les faux frais, les frais de garantie pour garantir le crédit. Donc les faux frais qui, entre guillemets, s'élèvent à 10% d'un projet immobilier. Donc les banques sont parfaitement disposées à vous financer à concurrence et à hauteur du prix de votre immobilier, de votre appartement ou de votre maison. Et puis vous arriverez avec en apport environ 10% de ce coût de projet. Si ce n'est pas le cas, soit on va avoir des complications à trouver une solution, soit on va se couper de banques potentiellement offensives en termes de conditions et on empruntera à moins bon compte.
D'accord. Bon, en tout cas, toutes les banques prêtent encore et il y a des disparités en fonction des banques. Donc n'hésitez pas à faire appel à un courtier, parce que le courtier, il va faire le tour de toutes les banques et il va pouvoir négocier. Comme il apporte plusieurs dossiers en même temps, forcément, il a un pouvoir de négociation qui est plus important que quand on est tout seul, particulier face aux banques. Merci beaucoup, Ludovic Auzieux, fondateur de Artemis Courtage. Tout de suite, on est avec notre invité, Loïc Quentin, notre invité de la semaine. Bonjour.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Bonjour Loïc.
Bonjour Bérénice.
Alors vous êtes président de la FNIM, c'est la Fédération Nationale de l'Immobilier. C'est le premier syndicat des professionnels de l'immobilier. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle? Vous représentez les professionnels de l'immobilier, mais pas que. Vous vous battez ardemment pour défendre le logement en France.
Et tous les jours et au quotidien, bien évidemment, notre fédération est une force de proposition et notamment en interaction avec, je dirais, les députés, les sénateurs et notamment le ministre du Logement et au quotidien et en permanence pour pousser, faire des propositions. Et malgré, je dirais, une Assemblée nationale qui n'a pas vraiment de pouvoir de décision, 11 groupes parlementaires, c'est là toute la difficulté. Mais quelle que soit la difficulté, nous poussons et notamment en ce sens afin que des dispositions et des mesures soient prises pour faciliter le logement des Français. La devise de la FNIM, c'est agir pour le logement et c'est ma mission au quotidien.
Et c'est important parce que vous avez quand même un rôle au-delà des professionnels, hein, vous avez un rôle aussi pour les ménages français.
Bien sûr pour les ménages français parce que je crois qu'il faut s'adapter en période de crise et en période de tension et comme celle que nous connaissons, que nous allons connaître, il faut trouver des mesures adaptées pour accompagner les Français et avoir, je dirais, un rôle d'influenceur auprès des politiques et des politiques publiques et porter à connaissance, je dirais, de l'ensemble des députés, de la classe politique, des solutions pragmatique, des solutions à la hauteur des enjeux. Et croyez-moi, le logement aujourd'hui est de telle importance et d'une telle complexité qu'on a besoin de cet apport de la société civile et des 10 000 entreprises que la FNIM représente, 10 000 entreprises au quotidien qui œuvrent pour le logement des Français dans les domaines de la copropriété, de l'administration de biens, de la transaction. On est le pouls permanent de ce marché du logement au travers de tout. J'entendais parler de rénovation énergétique, j'entends parler de financement, notamment de mobilité résidentielle, d'accès au logement des jeunes. Tout ça, ça fait partie, je dirais, de notre environnement quotidien et j'en suis un porte-parole élu par les 10 000 entreprises de France pour porter cette voix auprès du pouvoir public et de l'exécutif.
Et alors, qu'en est-il du marché immobilier? Alors, il y a une crise du logement en France, hein, on le voit, on le sait tous, ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a parmi vous énormément qui cherchent des logements. Moi, je suis journaliste spécialisée en immobilier, je vous jure que je reçois des messages de certains amis qui me disent « aide-moi à trouver un logement en location, aide-moi à trouver un logement social ». J'ai jamais eu autant de demandes, c'est vrai qu'il y a un souci. Il y a un souci en ce moment. Qu'est-ce qui se passe?
Bien évidemment, il y a juste un an et demi, nous disions la crise de l'immobilier est derrière nous, la crise de logement est devant nous. Et cette crise de logement, elle n'est pas prête d'être réglée. Et même si, effectivement, nous avions des mesures adaptées, il faudra une longue période pour pouvoir s'en sortir. Et c'est là toute la difficulté, tous les segments sont bloqués, que ce soit le logement social, locatif, que ce soit le logement locatif privé, que ce soit l'accession à la propriété. Le parcours résidentiel des Français est bloqué comme il ne l'a jamais été depuis plus de 50 ans. Et c'est là toute la difficulté de pouvoir avoir des solutions pragmatiques et qui sont finalement la suite d'un aveuglement de nos politiques publiques pendant 30 ou 40 ans, de ne pas avoir vu cette crise qui était pourtant prévisible arriver et avec autant de brutalité. Vous savez, je le dis souvent, je crois que aujourd'hui, il y fut un moment où le facteur d'exclusion était le travail. Mais quand on voit qu'on a 350 000 SDF et dont 30% d'entre eux finalement vivent dans leur voiture, et donc le premier facteur d'exclusion est on vit dans leur voiture et ont un travail. 30% ont un travail. Donc le facteur d'exclusion n'est plus le travail aujourd'hui, c'est le logement. Et c'est là le cri d'alarme que l'on porte. Donc une nation qui se respecte doit pouvoir veiller à avoir une politique du logement adaptée. Je crois que nous ne sommes pas tributaires d'une politique extérieure, notamment nous avons tout pour pouvoir avoir une stratégie, une offre de logement adaptée à la réponse de tous nos concitoyens. Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique que de voir des jeunes aujourd'hui, 17% des étudiants renoncent à leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de location, et de voir des jeunes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. L'accès à la propriété a toujours et fait partie, je dirais, des axes de progrès de notre pays, de la Ve République. Et aujourd'hui, nous avons perdu cette trajectoire, nous avons perdu finalement cette vision. Et je crois que ça demande un sursaut politique. Je dis un an avant l'élection présidentielle et à tous les candidats. Et nous attendons de vraies propositions adaptées à la crise du logement. Mais je crois, entre les discours et les actes et les propositions, je crois que nous, Fédération, on va avoir un rôle important dans les 12 mois qui vont arriver.
Ouais, c'est vrai que vous vous poussez en ce sens justement pour prévenir, en tout cas alerter les politiques, vous l'avez dit, hein, qui avaient passé le logement au second plan hein, depuis déjà plusieurs décennies. Restez avec nous Loïc Quentin, on va en parler justement dans quelques instants, on va parler de la présidentielle et de ce que vous préconisez pour les candidats, on va parler aussi du marché immobilier. Pourquoi la guerre au Proche-Orient va empêcher certains ménages d'accéder à la propriété? C'est dans quelques instants sur Sud Radio.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio, parlons immo, midi 13h, Bérénice de Villefleuriot.
Bonjour, bienvenue sur Sud Radio, on est ravis d'être avec vous en ce long week-end prolongé. Bon courage en revanche si vous bossez, si vous êtes chauffeur de taxi par exemple, ou si vous êtes dans un magasin, que vous tenez une boutique, on pense à vous. On est avec vous pour parler de votre logement, pour parler immobilier. Dans quelques instants, on abordera un sujet crucial pour notre santé, comment avoir une maison saine, tiens.
Oui Bérénice, on va même parler de détection des fuites d'eau.
Ça, ah, c'est un sacré casse-tête. Intéressant. Ah oui, moi j'en ai une il y a un an, c'était compliqué. Bon, c'est assez intéressant de parler de ça. Mais là, tout de suite, on est avec Loïc Quentin, le président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors Loïc, avant la pub, on parlait justement de la présidentielle, des candidats. C'est vrai que bon, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit sursaut chez les politiques, une petite prise de conscience. On parle du logement, on en parle un peu plus. C'est vrai que pendant les municipales, les candidats en ont parlé. Est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'on en parle un petit peu plus qu'avant, en tout cas? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'elle est réelle, cette prise de conscience?
Oui, je dirais que c'est finalement la finalité, après 9 ans de présidence d'Emmanuel Macron, 7 ministres de logement, pour arriver à prendre conscience de la brutalité de la crise et de la nécessité d'intervenir sur le logement. Voilà, je dirais qu'enfin, un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a pris le dossier, a essayé de trouver des solutions un minimum de ce qu'il peut faire au travers d'une loi de finances qui a enfin consacré un minimum d'intérêt au logement et relayé par son ministre Vincent Jeanbrun, que je dois saluer parce qu'il y a une forme de pragmatisme et de réalisme, enfin, que nous attendions. On ne pouvait pas se satisfaire.
Et Valérie Létard aussi, la ministre Valérie du Létard logement aussi, qui était là juste
Valérie
avant
Létard,
Vincent Jeanbrun.
Avec plus d'insistance de ce gouvernement, je l'entends, compte tenu qu'à un moment, nous avons assisté à des phrases du type « l'immobilier, c'est de la rente » ou « c'est de la surdépense publique pour une efficacité collective » et aucune, finalement, prise en considération ou traduire la détention immobilière comme un impôt à consacrer en permanence. Et je crois que c'est ce manque de regard, finalement, du gouvernement des deux gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui ont aussi sont un peu en partie responsables de la crise dans laquelle nous sommes. Bien évidemment, il y a eu, je dirais, des phénomènes, je dirais, extérieurs, notamment la crise de l'Ukraine qui a provoqué une hausse des taux d'intérêt d'intérêt qui ont désolvabilisé de nombreux ménages et qui les ont empêchés d'acheter, passant de 0,80% d'intérêt à 4,2 ou 4,5%, dépréciant la capacité et le pouvoir d'achat et qui ont finalement ralenti les transactions. On a connu une chute des transactions de 32% de ces pays en espace d'une année. On commençait, je dirais, en 2025 à reprendre des couleurs avec 11% d'augmentation en 2025.
De transactions, 11%
en plus,
de transactions.
Les marchés, les transactions reprenaient, un peu de couleur. Et là, aujourd'hui, la crise du Moyen-Orient vient finalement frapper un marché qui était convalescent, je dirais, d'une crise et d'une situation qui l'avait fragilisé. Aujourd'hui, un marché convalescent qui est au bord de la rechute. Voilà, au bord de la rechute parce qu'il est extrêmement suspendu à deux événements, l'évolution de la crise du Moyen-Orient et les taux d'intérêt et leur évolution, et deuxièmement aussi, l'évolution de la politique en France, parce que les Français ne savent pas où ils vont, comment ils sont gérés, et quels seront, notamment, quelle sera la politique du logement tellement manquante et préjudiciable à ce pays et qui nous manque, et quelle sera cette politique dans un an.
Alors Loïc, si vous le voulez bien, on va réexpliquer le mécanisme, parce qu'on reçoit des messages, certains ne comprennent pas pourquoi la guerre empêche les ménages d'acheter, pourquoi ça fait augmenter les taux. C'est très simple en fait.
Eh bien c'est très simple, parce que d'une part il y a une augmentation du prix du pétrole, de tous les produits dérivés. Quand on avec le pétrole on fait de l'asphalte, on fait du PVC, du plastique, ça impacte sur le prix notamment des matériaux dans le bâtiment, ça impacte toutes les matières premières, le transport, et ça génère de l'inflation. Et quand ça génère de l'inflation, eh bien, la politique, nous dépendons de la politique de la Banque Centrale Européenne en matière de taux. Dès que nous dépassons 2% d'inflation, et aujourd'hui nous y sommes, moyenne tous les pays européens, la Banque Centrale Européenne est contrainte d'augmenter ses taux pour limiter et lutter contre cette inflation.
Alors elle ne l'a pas encore fait.
On ne l'a pas encore fait, mais nous l'avons connu au moment de la guerre en Ukraine, en 2022, où les taux étaient passés de 0,80 à 4,2, qui avait complètement dégradé le marché. Notre risque, et on a connu d'autres périodes dans notre histoire, en 73, en 79, c'est peut-être très loin, mais c'était sur fond de guerre du pétrole aussi. Ouais. La guerre du Kippour avait pour origine, finalement, une guerre sur fond de politique énergétique. Les taux avaient atteint 17% en 1980, on ne s'en rappelle pas, et notamment nous sommes bien loin de cela, mais ça veut dire qu'il y a toujours ces tensions inflationnistes sur les prix, génèrent une augmentation des taux d'intérêt et qui empêchent des ménages de pouvoir acheter. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réduction de la croissance, et notamment inflation plus perte de croissance, c'est une stagflation, il n'y a rien de pire pour une économie. Et c'est en ce sens-là que c'est dommage. Là où le marché reprenait des couleurs, il est fragilisé à nouveau par une crise internationale, alors que le logement est d'intérêt national, il est de structuration nationale. Aujourd'hui, on crée du logement par du foncier, par des entreprises, par un financement. Et nous avons tout pour le faire. Et cette volonté politique, elle doit être au rendez-vous. L'impact international n'a rien à voir sur une politique du logement adaptée. Et je crois que c'est une mobilisation de tous les acteurs, mais en écartant tout dogmatisme et tout dogmatisme idéologique au sein de l'Assemblée nationale.
Et alors là, les taux ont déjà remonté, non pas à cause de la remontée des taux de la Banque Centrale, mais parce que l'OAT dit 10 ans à
oui, mais l'OAT ne concerne... Vous savez, moi je dirais aux ménages, aux tous les auditeurs qui sont là à l'antenne, écoutez, aujourd'hui l'État français emprunte à 3,90, c'est le taux des OAT. L'argent, les ménages français empruntent à moins cher que l'État français. L'État français emprunte 700 millions d'euros par jour et en 20 jours a consommé l'équivalent d'un porte-avions. Voilà, c'est ça la réalité française. Mmh. Et aujourd'hui les ménages ne sont pas endettés, ils peuvent s'endetter, les taux d'intérêt sont faibles. Ils sont à des niveaux tout à fait acceptables.
On peut y aller, donc n'hésitez pas.
Il faut
pas.
En profiter, je crois. Allez-y, il faut profiter de ce moment. Je dirais, les taux d'intérêt restent encore faibles. Il faut en profiter.
Loïc Quentin, rapidement, un petit mot justement sur le plan logement, relance logement qui a été annoncé par le gouvernement, notamment par Sébastien Lecornu et Vincent Jeanbrun. Qu'est votre regard sur ce plan? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il y a de l'espoir avec ce plan logement?
Je ne vais pas être contre, j'accompagnais le Premier ministre et le ministre du logement à Marseille, donc dans tous les
vous
cas,
étiez
et
à
on
Marseille,
fait partie de cette équipe du logement qu'a choisi Vincent Jeanbrun. Et il est vrai qu'enfin, un regard vers l'existant, vers l'ancien, qui a besoin, notamment quand j'entendais tout à l'heure une présentation sur la rénovation énergétique, il faut faire de la rénovation énergétique, mais il faut aussi sauver un parc locatif. Ouais. On a 770 000 logements classés F, frappés d'interdiction de louer. S'ils ne sont pas rénovés, sortiront du parc de l'offre locative au 1er janvier 2028. C'est 8% du parc, alors qu'aujourd'hui nous n'avons plus d'investissement dans le secteur locatif en France. On est en train de fabriquer une machine à détruire un stock, une machine à détruire l'offre, et nous n'avons rien en remplacement. Alors je dis bravo pour cet acte courageux d'au moins flécher un avantage fiscal vers le secteur de l'existant qui n'a jamais existé depuis 40 ans dans notre pays. On a toujours consacré de l'aide à l'investissement immobilier dans le neuf pour des Français qui étaient déjà propriétaires de leur logement, alors que la vraie fragilité en France, c'est de pouvoir simplement devenir propriétaire de sa résidence principale.
Merci beaucoup Loïc Quentin, vous restez avec nous, vous êtes toujours avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de l'encadrement des loyers dans quelques instants. Tout de suite, on parle de la qualité de l'air dans votre logement sur Sud Radio.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio. Pardon. Aujourd'hui, on parle d'un problème que beaucoup redoutent, souvent invisible au départ. Je veux parler des fuites d'eau dans nos logements. Parce qu'une fuite, c'est pas toujours un robinet qui goutte. Parfois, elle est cachée dans un mur, sous un sol. Elle peut faire des dégâts considérables. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joséphine Duvignac, directrice commerciale de Aquadetect. Bonjour Joséphine.
Bonjour Grégoire, merci pour votre invitation.
Alors Joséphine, première question. Quand on parle de fuite d'eau, on pense souvent à quelque chose de visible, mais en réalité, c'est souvent caché.
Exactement. La majorité des fuites que nous détectons sont invisibles à l'œil nu. Elles peuvent se situer dans les canalisations encastrées, enterrées, même des planchers ou dans les murs. Et pendant ce temps, l'eau, elle coule pendant des semaines, voire des mois.
Donc en fait, on peut avoir une fuite chez soi sans s'en rendre compte.
Oui, c'est même très fréquent. Les premiers signes sont souvent indirects. Une facture d'eau qui augmente sans explication, une odeur d'humidité, des taches ou des cloques, ou alors un sol qui devient légèrement déformé ou humide.
Joséphine, à partir de quand faut-il vraiment s'inquiéter ?
Dès que vous avez un doute, il faut agir. La première étape, ça va être de déclarer le sinistre à son assurance, car la recherche de fuite peut être prise en charge selon les garanties du contrat. Selon la situation, vous pourrez ensuite faire appel à l'entreprise de votre choix ou obtenir un rendez-vous via un prestataire mandaté par l'assurance pour la recherche de fuite. À la réception du rapport d'intervention, il est très important de mettre en œuvre les recommandations et les préconisations afin de traiter durablement le problème.
Et comment est-ce qu'on fait pour détecter une fuite si elle est invisible ?
Aujourd'hui, on dispose de technologies très avancées. Par exemple, chez Aquadetect, on commence par relever les dégâts avec une caméra thermique et le testeur d'humidité. Ensuite, on va déployer les technologies les plus adaptées selon la situation. Par exemple, la caméra endoscopique pour tout ce qui va être évacuation, le gaz traceur ou la détection acoustique pour les fuites sur alimentation, la fumigation pour les toits-terrasses, enfin toute une ribambelle de technologies. Et ça permet de localiser précisément une fuite sans casser les murs ou les sols.
Donc, ouais, c'est ce que vous dites, on n'est plus obligé de tout casser pour trouver l'origine.
Non, heureusement. Le but aujourd'hui, c'est d'intervenir de manière non destructive, ciblée et rapide.
Joséphine, est-ce qu'il y a des gestes simples pour prévenir ce type de problème ?
Oui. Alors déjà, il faudrait avoir quelques réflexes, par exemple surveiller sa consommation d'eau, vérifier régulièrement les zones sensibles comme les joints de la salle de bain ou les siphons sous l'évier, rester attentif aux signes inhabituels comme les odeurs, les traces de la peinture qui cloque. Nous aussi, on est très souvent appelés pour des cas où la fuite a déjà été réparée et malgré ça, les taux d'humidité restent très élevés. Donc en réalité, la fuite, elle était soit mal diagnostiquée parce que le diagnostic était uniquement visuel, ou il y avait une autre fuite.
Donc au fond, une fuite d'eau, c'est un peu comme l'humidité. Plus on agit tôt, mieux c'est.
Exactement. Une fuite détectée rapidement, c'est souvent une intervention simple et limitée. À l'inverse, une fuite que vous laissez sans traitement peut entraîner une dégradation de la qualité de l'air, des dommages sur le bâtiment et des réparations beaucoup plus lourdes à terme.
Donc au moindre doute, qu'est-ce qu'on fait ?
Si vous avez un doute, n'attendez pas de voir les dégâts empirer. Aujourd'hui, on a les moyens de détecter une fuite de manière précise et non destructive. Et dans ce type de situation, un diagnostic réalisé tôt fait souvent toute la différence. N'hésitez pas à contacter Aquadetect via notre site aquadetect.com/fr.
Merci beaucoup Joséphine Duvignac pour ces conseils très concrets. À vous qui nous écoutez, ouvrez l'œil et surveillez votre compteur. En cas de question, rendez-vous sur maison-saine.fr et sur Aquadetect. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine, ici sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Et bon samedi, bon courage si vous travaillez. Profitez bien si vous êtes en long week-end. On est ensemble jusqu'à 13h pour parler de votre logement. D'ailleurs, si vous cherchez un logement, restez là. On va vous proposer des biens. La rédaction a fait un petit tour sur les annonces de logement. On vous en a choisi deux.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Bérénice de Villefleuriot.
Bienvenue sur Sud Radio, c'est Parlons Immo, parlons immobilier, parlons de votre logement. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 7 20 18, votre question précédée de Immo, I2MO, et on y répond chaque semaine avec des experts. Tiens, est-ce que vous cherchez un logement? Est-ce que vous avez envie de devenir propriétaire? Eh bien, on en parle tout de suite. On a, la rédaction a fait le tour des annonces et on en a sélectionné deux.
Oui, Bérénice, pour notre première annonce, on va direction Villeneuve-d'Ornon. Nous sommes dans la banlieue sud de Bordeaux. Ici, nous avons trouvé une belle maison de 74 mètres carrés. Un petit coup de cœur, nous dit l'annonce, pour cette maison dans une résidence sécurisée. 75 mètres carrés habitables et un jardin de 100 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, une buanderie, un cellier, un séjour avec coin cuisine. Et puis à l'étage, deux chambres et une salle de bain. Une maison qui est récente et qui a été récemment rénovée aussi. À l'extérieur, vous êtes donc dans une résidence surveillée, sécurisée, dans laquelle deux places de parking vous sont réservées. Bref, tout ceci est très sympathique et vous est proposé au tarif de 363 000 euros sur le site de Basile.
Et alors, est-ce qu'on peut se projeter avec un financement?
On va essayer, en tout cas un apport de 20%, c'est généralement ce qu'on recommande, avec 72 600 euros. Et puis un emprunt sur 25 ans à 3,4%. Pour le moment, vous pouvez estimer des mensualités à 1438 euros.
Alors un autre bien, bon cette fois-ci c'est un petit peu plus loin, il faut prendre l'avion.
Ouais, c'est insolite, je l'ai trouvé marrant celui-là, direction les States, les États-Unis d'Amérique. Et vous allez voir que la folie immobilière ne se passe pas que chez nous. Là on est à Long Island dans l'état de New York. Il faut savoir qu'ici, le prix médian d'une maison, il est de 700 000 dollars. Et à surprise, on a trouvé une maison à 330 000 dollars, ce qui en soi constitue une belle curiosité, tant le prix est bas. Alors forcément, à ce tarif, vous allez me dire, bah, y a forcément un hic ou un mais. Eh bien, vous avez raison. Le premier hic, c'est la taille du bien, puisque notre maison, elle fait 41 mètres carrés. Donc finalement, plus un studio qu'une véritable maison. L'annonce précise que cette surface comprend une cuisine, une salle à manger, une salle de bain et un débarras en sous-sol. Et bien, si vous avez bien suivi, vous constatez qu'il manque une chambre. Fin observateur que vous êtes. C'est là le deuxième hic, pas de chambre déclarée, effectivement. Pas hyper pratique pour y vivre, finalement. Alors la question, c'est, est-ce que c'est rédhibitoire? Ben, même pas. À Long Island, le marché de l'immobilier est tellement saturé que les biens proposés à ce tarif-là sont rares et il ne serait pas étonnant que cette maison trouve rapidement preneur, même si elle fait 3 mètres de large et ne comprend aucune chambre.
Et elle fait quand même 8000 dollars le mètre carré. Quoi.
Ouais, c'est cher. Ouais, hein.
Bon, c'est cher pour ce que c'est quand même. Sans chambre, moi j'y vais pas. Merci beaucoup Grégoire. On est toujours avec notre invité Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Et on passe à la question, la grande question de la semaine. Alors justement, la question de la semaine, c'est une rubrique où on parle de l'actualité, l'actualité chaude. Et j'aurais aimé avoir votre avis, qu'on discute de l'encadrement des loyers. Alors, il y a un observatoire, c'est l'observatoire Clameur. C'est un observatoire assez précis hein, qui étudie les loyers. Et là, l'observatoire Clameur vient de publier son rapport 2025, donc sur les loyers 2025. Alors, on constate une petite augmentation des loyers de 2,10%, donc ça augmente, plus qu'en 2024, puisqu'en 2024, il n'avait augmenté que de 1%. Mais déjà, l'observatoire dit que sur 11 ans, en fait, les loyers augmentent moins vite que l'inflation. Bon, ça, c'est une chose. Et concernant l'encadrement des loyers, Clameur, donc, qui a une fine analyse parce qu'il se base sur les baux signés, donc sur les loyers vraiment du terrain, pas sur les loyers approximatifs. Non, c'est vraiment, il y a des millions de données, donc c'est vraiment constructif comme analyse. Et sur l'encadrement des loyers, Clameur nous dit que au final, ça n'a pas tant d'impact que ça. Bon, peut-être un petit peu à court terme, mais sur le long terme, en fait, c'est pas du tout l'encadrement des loyers qui fixe les prix, c'est plutôt l'offre et la demande et la démographie locale. Donc on a vraiment un retour factuel qui nous dit que l'encadrement des loyers, bah, ça ne fonctionne pas au final.
On connaît bien l'analyse de Clameur, puisque la FNAIM est contributeur à travers ses adhérents de cette base de données, de cette data. Bien évidemment, l'encadrement des loyers, je dirais, fait beaucoup d'écho dans le monde politique. C'est devenu l'arme universelle, l'arme de destruction ou finalement d'intervention sur le marché de logement pour de nombreux maires. On a envie de dire aux maires, messieurs, pour pouvoir lutter contre les loyers chers, il faut construire plus. Et la question de la construction de plus de logements est entre les mains à la fois d'une réglementation et entre les mains du pouvoir des maires d'avoir une politique foncière et de faire de nouvelles constructions et de les inciter. Donc oui, il faut un choc d'offre pour lutter contre des loyers éventuellement qui pourraient augmenter confronté à un excès de demande. En réalité, le législateur a toujours consacré, aujourd'hui, la France est partagée entre deux territoires. Une zone tendue, là où il y a une offre insuffisante. 48% du marché locatif est en zone tendue. Toutes les grandes îles de France sont en zone tendue. Toutes ces zones tendues ne peuvent pas augmenter au moment de leur relocation le logement plus que l'inflation. C'est-à-dire que ça existe depuis 2014. Ça fait 12 ans qu'au moment de la relocation, un propriétaire ne peut pas augmenter plus que la variation à laquelle il est autorisé, la variation de l'indice de revalorisation des loyers. En réalité, encadrer les loyers
qui
ne
est publié chaque année. Hein,
qui est publié chaque année, et tous les trimestres d'ailleurs. Ouais. En réalité, l'encadrement des loyers ne peut s'appliquer que pour les nouveaux logements entrants, qui sont encadrés dans la fixation du prix. Mais je dirais tout simplement à mesdames, messieurs les maires, il n'y a plus de logements entrants. Aujourd'hui, il y a une panne de l'investissement locatif en France et il n'y a plus de nouvelles offres qui arrivent sur le marché.
Pourquoi ?
Le Pinel a pris fin en 2024. Ouais. Il y avait un avantage fiscal important pour des propriétaires bailleurs et il n'y a plus d'entrée dans le parc locatif. Comment voulez-vous qu'un investisseur aujourd'hui se projette sur un investissement locatif avec des taux de rendement faibles, une taxation à l'impôt sur la fortune immobilière, une taxe foncière qui est en augmentation permanente, un encadrement des travaux de rénovation énergétique, un permis de louer, une déclaration d'intention, autant de contraintes réglementaires et administratives qui ne donnent pas tout simplement envie aux Français. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire, il faut restaurer la confiance de l'investisseur pour pouvoir redonner envie aux Français d'investir dans le logement qui constituera un choc d'offre. Aujourd'hui, les loyers deviennent chers parce que nous manquons de logement et la question est là de mobiliser et d'avoir un choc d'offre indispensable à la réponse à cette question. L'encadrement des loyers, pour nous, a un effet contre-productif.
Et quand on parle d'investisseurs, qu'on soit clair, ce sont des petits investisseurs particuliers. Parce que là, tout de suite, c'est vrai qu'il y a une vision
Bérénice,
très manichéenne où les investisseurs sont les méchants riches capitalistes.
30% des propriétaires n'ont qu'un logement et 30% des propriétaires qui détiennent un appartement ne payent pas d'impôt sur les revenus, tout simplement, parce que ce sont des petites pensions, des petites retraites, un ancien chauffeur de taxi, un commerçant, un artisan et qui cumule 400 ou 500 euros de revenus par mois, qui est son complément de retraite. Il n'était pas salarié et il a besoin de ses revenus et on est en train de les taxer et de les contraindre. Il faut redonner à la France une dimension de volonté d'investissement et de venir au secours et permettre le parcours résidentiel des Français.
Et c'est parfois les économies aussi de toute une vie, hein. C'est ce
toute
que vous disiez.
Vie, absolument.
Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on n'a pas envie, ça ne donne pas envie. Alors, il y a le rendement, c'est ce que vous disiez, mais il y a aussi d'autres sujets. C'est vrai que les médias, alors ça je leur en veux un peu parfois, mes confrères, c'est que ils sont un peu anxiogènes, notamment sur les loyers impayés. Sur... Est-ce qu'il y a vraiment des loyers ? Est-ce que ça a vraiment augmenté ?
Le pourcentage de loyers impayés dans le parc privé, c'est 1%.
Oui, donc, c'est ça. Ça se passe dans la majeure des cas, ça se passe plutôt bien.
Et passé par un professionnel, vous n'aurez pas de loyer impayé. Je dirais que quand on s'aventure à avoir être opposé à un loyer impayé, c'est qu'on n'a pas pris les précautions d'usage et une sélection d'un locataire. On a le droit de sélectionner un locataire. Un locataire doit pouvoir répondre à sa capacité de pouvoir louer et non à sa simple volonté de vouloir louer.
Alors justement, le gouvernement a lancé le dispositif Jeanbrun donc pour inciter, qui est entré en vigueur, hein, qui est déjà en vigueur. Le dispositif Jeanbrun, c'est pour inciter ses propriétaires bailleurs à investir dans la pierre. Est-ce que ça fonctionne sur le terrain ? Est-ce que vous commencez à voir, en tout cas pour le neuf ?
Pour le neuf, on ne peut pas répondre encore, c'est trop récent. Il est d'application, il était depuis le 17 février.
Ah ouais, il y a des promoteurs qui m'ont dit que ça permettait de vendre des stocks qui n'arrivaient pas à écouler.
Depuis le 17 février, concernant l'ancien, dans sa version actuelle, il est inapplicable et notamment n'est pas effectif. On attend le projet de loi du gouvernement, notamment qui réforme le dispositif fiscal adopté dans la loi de finances 2026, qui donne là finalement de véritables avantages si on investit dans l'ancien. Ce dispositif entrera en vigueur vraisemblablement en octobre ou en novembre, s'il est adopté et validé par l'Assemblée nationale. On le souhaite de tout cœur. Je crois que c'est un des axes pour sauver un marché de logement qui est en grande difficulté et le marché de l'investissement locatif en France.
Eh bien, merci beaucoup Loïc Quentin. Merci d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, et vous représentez les professionnels, mais pas que, hein, c'est ce que je disais en début d'émission, vous vous battez pour le logement, vous faites pression et vous le faites vraiment. Hein. Moi, je sais un peu ce qui se passe dans les coulisses et c'est vrai que vous n'achetez pas les députés, donc ça fait du bien à tout le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 12h-13h dans Parlons Immo. Cette émission sera évidemment rediffusée à midi sur Radio Immo, mardi à midi sur Radio Immo. Dans quelques instants, Invino avec Alain Marty. Et puis cet après-midi, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, rugby sur Sud Radio, c'est le top 14. Et nous avons un multiplex. Donc, restez connectés toute la journée sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Sud Radio, parlons Immo.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.